Psaume 69. Les souffrances personnelles de Christ lorsqu'il est entré dans les détresses venues sur les fidèles en Israël à cause des péchés de la nation, pour lesquels ils sont frappés dans le gouvernement de Dieu. Christ seul est entré pleinement dans les expériences décrites dans ce psaume, encore qu'elles puissent, dans une certaine mesure, être connues par d'autres. Ce fait indique clairement que les souffrances ici ne comportent pas l'expiation et ce qui s'ensuit, l'abandon de Dieu. Cela, Christ seul pouvait l'endurer, comme nous le voyons au psaume 22. De plus, bien que le Seigneur ait connu en partie pendant sa vie ici-bas les souffrances décrites dans ces versets, elles ont eu leur point culminant à la croix, car c'est là seulement que le Seigneur a été frappé de Dieu. Mais même si l'aspect de la part d'Israël sous les coups de Dieu est abordé, ce sont surtout les douleurs résultant de l'hostilité de la nation juive coupable qui dominent. Une telle méchanceté mérite le jugement. Aussi, dans ce psaume, avons-nous l'appel au jugement plutôt que l'attente de la grâce qui apporte la bénédiction à l'homme. Mais le jugement de la nation coupable ouvre la voie à la restauration d'Israël qui termine ce psaume. Versets 1 à 3. Les premiers versets présentent les souffrances personnelles du Seigneur à la croix. Plus loin dans ce psaume, nous trouverons l'inimitié des hommes que Christ a endurée dans le chemin qui conduit à la croix. Ici, la douleur suprême, celle que le Seigneur a connue dans sa propre âme, est placée en premier devant nous. Tout ce que les fidèles en Israël ont éprouvé dans une certaine mesure, lui l'a pleinement ressenti, comme seul pouvait le faire l'homme parfait. La nation n'avait pas où prendre pied devant Dieu. Le Seigneur est entré en esprit dans cette position sur la croix. Néanmoins, dans cet état, le résidu s'attendait à Dieu. Cette confiance a été parfaitement exprimée par Christ qui, du milieu de la détresse, peut dire « J'attends mon Dieu ». Verset 4. La haine de la nation juive à l'égard du résidu pieux a été parfaitement ressentie par le Seigneur sur la croix. Sa perfection infinie lui permettait de dire d'une manière absolue que c'était sans cause qu'il le haïssait et que ceux qui cherchaient à le détruire étaient à tort ses ennemis. De plus, ils étaient nombreux et puissants. Quant à lui, à la croix, il a eu affaire non seulement à l'hostilité d'un individu, mais à la haine de la nation, entraînée par ses puissants conducteurs. Pour lui, l'expression bien connue s'est vérifiée. « Ce que je n'avais pas ravi, je l'ai alors rendu. » Comme quelqu'un l'a exprimé, cela revenait à dire « Bien qu'innocent, je suis traité comme coupable. » Voir Jérémie 15, verset 10. Verset 5. Se détournant de la rage des nations attroupées à la croix, la sainte victime regarde à Dieu. Israël souffrait pour ses péchés sous le gouvernement de Dieu. Le Seigneur est entré dans cette souffrance. Il peut crier à Dieu dans la connaissance de la cause réelle de ses souffrances, les péchés de la nation qu'il confesse comme étant les siens. Ici, cependant, il s'agit de la confession des péchés, et non pas du jugement des péchés pour les expier comme au psaume 22. Verset 6. Le Seigneur s'attend à Dieu, verset 3. Mais il y en a d'autres qui s'attendent à l'Éternel des armées. Pour cela, Christ s'adresse à Dieu, afin qu'il ne soit pas rendu honteux et confus par les souffrances de celui à qui il regardait pour obtenir la rédemption. Voir Luc 24, versets 19 à 24. Versets 7 à 12. Dans ces versets, nous sommes admis à considérer les souffrances du Seigneur dans le chemin qu'il a conduit à la croix. À cause de sa fidélité à Dieu, de la part d'un monde qui a aimé les ténèbres plus que la lumière. Dans son pays et dans sa maison, il a été traité comme un étranger et un inconnu. Matthieu 13, versets 54 à 58. De plus, son zèle pour la maison de Dieu, qu'il a conduit en deux occasions à purifier le temple, lui a valu l'opprobre de la part des hommes. Ceux-ci ont reporté sur Christ leur haine contre Dieu. Jean 2, versets 13 à 17. Luc 19, versets 45 à 48. S'il a pleuré, et si son âme a été dans le jeûne, en pensant à la misère que les péchés des siens apporteraient sur la nation, cela aussi lui a été en opprobre. en dehors de leur ville, il a pleuré sur les pécheurs qui, à l'intérieur, complotaient pour lui ôter la vie. Luc 19, versets 41 à 48. Si les péchés de la nation ont fait de lui l'homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur, les douleurs mêmes, symbolisées par le sac, ont été l'occasion dont se sont servis les hommes pour faire de lui un proverbe et empêcher ainsi les autres de le suivre. Ses protestations publiques contre l'impiété lui ont valu la haine des conducteurs, ceux qui sont assis dans la porte. Elles ont fait de lui un sujet de dérision pour les dépravés. Il a servi de chanson aux buveurs. Versets 13 à 19. Le Seigneur a énuméré les souffrances qu'il a connues de la part de l'homme. Nous voyons ici qu'elles ont été l'occasion de manifester la perfection de sa confiance en Dieu. Contrairement à nous, il n'y avait rien en lui pour l'entraîner à une expression de ressentiment ou d'exaspération. La méchanceté de l'homme n'a fait que le rejeter sur Dieu. Mais pour moi, ma prière s'adresse à toi, Éternel. Le Seigneur s'adresse à Dieu dans la pleine confiance d'être entendu, car il se tourne vers lui en un temps agréé. Lorsque Christ a souffert pour le péché sous la main de Dieu, le psaume 22 nous montre qu'il a crié, mais qu'il n'a pas été entendu. Ici, où il s'agit des souffrances de la part des hommes, son cri est reçu. Sa confiance dans la grandeur de la bonté de Dieu et dans la vérité de sa puissance en salut n'est pas ébranlée par tout ce qu'il endure. Il s'attend à Dieu pour être délivré de la détresse, de ceux qui le haïssent et de la mort. Le Seigneur parle comme quelqu'un qui connaît par expérience la bonté de l'Éternel et la grandeur de ses tendres compassions, et comme quelqu'un qui a besoin de ses compassions divines en tant que serviteur de l'Éternel environné d'ennemis. La consolation de l'homme parfait est que Dieu connaît tout. Le Dieu de bonté et de compassion est celui qui connaît son opprobre, sa honte, son déshonneur, même ses adversaires sont tous devant Dieu. Versets 20 et 21. Ainsi, le Seigneur regarde à Dieu seul au jour où l'opprobre des hommes lui a brisé le cœur. Se tourner ailleurs pour trouver de la compassion aurait été inutile, car dans ce monde, il n'y a personne qui ait pitié. Christ a cherché quelqu'un qui ait compassion, des consolateurs, mais il n'a trouvé personne. Bien loin d'éprouver de la pitié et de la compassion, ses persécuteurs lui ont donné du fiel et du vinaigre en réponse à son cri. Versets 22 à 28. Le rejet de la grâce du Sauveur et la haine injustifiée qu'il a clouée à la croix laissent les hommes exposés au jugement, car ils ont rejeté celui qui seul pouvait les mettre à l'abri de ce jugement. Aussi avons-nous ensuite la demande que le jugement en rétribution tombe sur ceux qui se sont manifestés comme étant les ennemis sans cause de Christ. C'est un jugement qui frappe les hommes dans ce monde, bien qu'il puisse avoir pour conséquence de conduire au jugement éternel. Le Seigneur en avait averti la ville de Jérusalem. Il avait instruit ses disciples à son égard et avait mis en garde les filles de Jérusalem. Luc 19, versets 42 à 44, 21, versets 20 à 24, 23, versets 28 à 31. La prospérité terrestre du monde deviendra son piège. Et avec la faillite de tout ce en quoi les hommes se confiaient, le monde sera plongé dans les ténèbres quant à son esprit. Parce que les peuples ne sauront pas comment agir, il y aura sur la terre une angoisse des nations en perplexité. Leurs reins chancelleront continuellement. Les hommes rendront l'âme de peur à cause de l'attente des choses qui viendront sur la terre. La colère de Dieu se déversera sur eux et leur demeure sera détruite. Leurs maisons seront désolées et leurs villes foulées aux pieds par les gentils. Ce jugement frappe les hommes à cause de la cruauté impitoyable avec laquelle ils se sont plu à persécuter celui que Dieu frappait. D'autres peuvent partager cette souffrance. La douleur même de ceux dont l'esprit est blessé par le péché de la nation attire une persécution d'autant plus grande sur cette nation. Le rejet de la grâce de Christ est le péché suprême qui vient s'ajouter à leurs iniquités. Ils n'entreront pas dans la justice de Dieu qui amène le salut. Ils n'auront pas de part dans le livre de vie, ni dans la portion des justes. Versets 29 à 31. Mais si les souffrances subies par Christ de la part des hommes conduisent au jugement de la nation, elles auront aussi une réponse glorieuse lors de l'exaltation de Christ. C'est pourquoi, bien qu'il soit affligé et dans la douleur, le Seigneur peut dire « Que ton salut, ô Dieu, m'élève en un lieu de sûreté ». Son élévation sera accompagnée de louanges à Dieu, des louanges que Christ entonnera et qui remplaceront les sacrifices d'autrefois. Versets 32 à 36. Si le Seigneur conduit la louange, les humbles disciples de Christ, qui cherchent Dieu, se réjouiront en voyant cette réponse donnée à leur cri de pauvre, et ils apprendront que l'Éternel ne méprisera pas son peuple prisonnier, même si les hommes le persécutent. En outre, la louange qui commence avec le Messie exalté sera reprise par les cieux et la terre, les mers et tout ce qui se meut en elles. Sion sera sauvé. Les villes de Juda seront rétablies et habitées à nouveau, et la semence des serviteurs de l'Éternel héritera le pays. Ceux qui aiment son nom y demeureront. Nous apprenons ainsi que les souffrances du Seigneur de la part de la nation coupable amènent le jugement sur celle-ci, mais conduisent aussi à l'exaltation de Christ. De plus, l'exécution du jugement sur la nation ouvre la voie à la bénédiction du résidu pieux et à la restauration d'Israël.